L'édition de la mi-journée de ce jeudi sur Colline, midi 2, on passe à toute info près de chez vous, c'est présenté par Boris Blais, bonjour.
Bonjour David, bonjour à tous. Le verdict est tombé hier soir, 18 ans de prison pour l'homme qui avait tué son beau-frère lors d'un repas de famille à Montigny. L'agglo du Bocage Bressuirey a voté son budget 2024 avec bien plus de sérénité qu'il y a un an lorsque les éléments extérieurs comme le prix de l'énergie étaient hors de contrôle. À Bressuire, la ZAC 4 saisons poursuit son bonhomme de chemin. L'espace libéré par l'ancien collège Supervielle offre un emplacement privilégié en cœur de ville, une zone d'aménagement concertée qui sera dédiée à l'habitat. Et puis à Thouars, le chantier des pistes cyclables, mais les bouchées doubles. Au total, un linéaire de plus de 7 km. Enfin, nous irons faire un tour à Saint-Amand, où une expo sur l'artisanat d'antan est organisée ce week-end. Ce sera donc 18 ans de prison. L'homme qui avait tué son beau-frère lors d'un repas de famille à Montigny a été jugé hier soir par la cour d'assises des Deux-Sèvres. La cour a suivi les réquisitions de l'avocat général. Le prévenu de 27 ans avait assassiné son beau-frère d'un coup de couteau il y a 3 ans, en avril 2021. Un avis favorable pour le développement de la zone d'activité Alpha Park à Bressuire. L'agglo souhaite développer le secteur qui compte une quarantaine d'entreprises et affiche complet. Le projet d'extension de 25 hectares est à l'étude et a été approuvé par le Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui a donc suivi l'avis favorable du commissaire enquêteur. La décision finale sera prise par la préfète des Deux-Sèvres. L'agglo du Bocage Bressuirey qui a voté son budget 2024 avec bien plus de sérénité qu'il y a un an lorsque les éléments extérieurs comme le prix de l'énergie étaient hors de contrôle. Les prix se sont ensuite stabilisés, ce qui a permis de réaliser des résultats corrects en 2023. Claude Pouzin, vice-président de l'agglo de B en charge des finances.
On avait beaucoup de craintes il y a un an avec le budget 2023 compte tenu de toutes les incertitudes qu'on pouvait avoir et notamment et peut-être surtout sur l'énergie. Et c'est vrai qu'on termine une année avec un résultat consolidé acceptable, ce qui nous permet de reporter sur l'année 2024 des choses plus sereines et équilibrer un budget de fonctionnement malgré des augmentations liées à l'inflation, à la masse salariale qui reste supportable par rapport aux recettes attendues. Et on présente un budget toujours en équilibre bien sûr, mais avec potentiellement de pouvoir boucler avec quelques excédents nous permettant d'envisager des investissements futurs.
10 ans après sa création, l'agglo rationalise et les services proposés à la population évoluent. Pierre-Yves Marolo, le président de l'agglo, toujours au micro de Fabien Gazeau.
Le premier mandat était une mise en place. Aujourd'hui, on a été obligé de resserrer, on va dire, les boulons, de travailler vraiment main dans la main avec les communes. Qui joue le jeu, hein, puisque il faut reconnaître que le pacte fiscal et financier signé en 2021 fait que les communes participent maintenant aujourd'hui à pas mal d'investissements ou même du fonctionnement. Je pense à l'urbanisme, je pense à l'informatique, mais c'est aussi ça une agglo, c'est d'apporter un service plus performant qu'on met au service. Contre rétribution, bien sûr, mais qu'on met au service des différentes communes.
Les dépenses de fonctionnement sont évaluées à près de 76 millions d'euros. Des dépenses maîtrisées selon la collectivité, sachant qu'en début d'année, chacun des services avait reçu une lettre de cadrage limitant à 2% les évolutions. Le budget d'investissement prévoit, lui, 28 millions d'euros, tout budget confondu. Claude Pouzin.
On est là, tout budget confondu, donc on sait qu'il y a des budgets comme l'assainissement ou les déchets qui ont leur programme d'investissement, on va dire, habituel, parfois un peu plus lourd. Et sur le budget principal, eh ben c'est vrai qu'il y a deux grosses opérations qui vont s'inscrire dans les années à venir. C'est la restructuration des centres aquatiques. Et puis, cette année vient peser le centre régional de tennis. Et aussi, sur le budget développement économique, deux grosses opérations sur la création de zones d'activité à la foresterie à Montcoutan et Alpha Park à Bressuire.
Et à propos des centres aquatiques, c'est une enveloppe de 10 millions d'euros qui sera consacrée d'ici 2029 pour les rénovations des équipements de Cerizay, Bressuire, Montcoutan et Nueil-les-Aubiers. Sachant que l'on ne dépassera pas les 2 millions d'euros sur le Val-de-Scie. Thierry Marolo a fait entendre sa voix et a voté contre, regrettant un manque de précision sur ce programme d'investissement. 5 élus, dont Armel Cassin, se sont abstenus dans ce même dossier. Les élus ont par ailleurs voté le maintien des taux d'imposition. À Bressuire, la ZAC 4 saisons poursuit son bonhomme de chemin. Le conseil municipal a longuement étudié le dossier lundi soir. L'espace libéré par l'ancien collège Supervielle offre un emplacement logements privilégiés en cœur de ville. Une zone d'aménagement concertée qui sera dédiée à l'habitat. Emmanuel Ménard, maire de Bressuire.
Le projet de réalisation est lancé, hein, et donc nous allons pouvoir partir vers un appel à projet pour des promoteurs. L'EHPAD va pouvoir lancer sa construction aussi, et nous entamons nos travaux là pour l'automne 2024. Donc on aménage l'ensemble des 2,4 hectares autour de la voirie, des aménagements d'espaces publics, etc. Là, ça c'est nous qui faisons le plan d'aménager. Mais après, les promoteurs, eux, eh bien, vont venir avec leurs projets. Donc là, comme par exemple, alors ce n'est pas un promoteur, mais comme par exemple l'ADMR avec l'EHPAD. Et puis ensuite, eh bien, Atlantique Aménagement pour les collectifs sociaux et des promoteurs privés pour les habitations en accession.
La ZAC des 4 saisons prévoit plus de 5200 m² de surface de plancher avec une mixité de population et de génération. Il y aura donc un EHPAD, des logements individuels en location ou en accession à la propriété et des logements collectifs, là aussi en location et en accession à la propriété dans un espace qui se veut agréable et bien végétalisé. La demande devrait être assez forte.
Nous étions, les collègues tenaient le stand de la ville là, sur la foire tout ce week-end, et les nombreux passants avaient presque tous envie d'acheter un terrain sur la ZAC des 4 saisons. Donc lorsque nous allons mettre en vente à partir de début 2025, je pense que ça va être effectivement très prisé.
Est-ce qu'on peut déjà indiquer un prix? Alors par exemple, pour des gens qui ont envie d'investir sur une maison individuelle, un prix au mètre carré, on peut avancer un prix comme ça ou pas?
Non, pas encore, parce que nous allons déjà émettre un prix auprès des promoteurs. Eux aussi vont faire des aménagements, donc nous allons y travailler, mais que les Bressuirais ou autres se rassurent, nous divulguerons le prix dès que possible.
À noter que le quartier des 4 saisons sera ouvert à la circulation uniquement pour les habitants et les visiteurs. Ce ne sera pas un passage traversant. Le classement 2023 des lycées et collèges par département a été publié sur le site de l'Éducation nationale. Et pour ce qui est des Deux-Sèvres, les lycées qui arrivent en tête sont le lycée privé Saint-André à Niort et le lycée public du Haut-Val-de-Sèvre à Saint-Mexant-l'École avec 100% de taux de réussite au bac. Sur les 46 collèges, 6 ont obtenu 100% de réussite au brevet, 3 publics, le collège François Truffaut à Chef-Boutonne, Louis-Merle à Secondigny et Jacques Prévert appartenait. 3 privés, les collèges Notre-Dame à Niort et Bressuire et le collège Saint-Joseph appartenaient. Dans le reste de l'actualité, quelques militants anti-bassines se sont retrouvés hier devant l'espace Tartelin à Effre où se tenait l'Assemblée Générale de la COP de l'eau qui porte les réalisations des réserves de substitution. Un rassemblement est prévu samedi à Mel pour commémorer la manifestation de Sainte-Soline. La Confédération Paysanne vient d'adresser un courrier à la préfecture et à la DDT face au retard de paiement des aides liées à la politique agricole commune et à l'agriculture biologique. Le syndicat demande aux services de l'État d'assumer les retards de paiement en suspendant par exemple certaines échéances. La décision finale devrait tomber aujourd'hui. Selon le syndicat CFTC, le tribunal de commerce de Bordeaux doit se prononcer sur le plan de sauvegarde des 26 magasins Galeries Lafayette de province, dont celui de Niort. La locomotive commerciale du centre-ville emploie une vingtaine de salariés. À propos des énergies renouvelables, le CIED et Céolis annoncent la première injection de biométhane dans le réseau gaz naturel de Céolis pour la fin du mois, le 29 mars, du côté de Bourg-sur-Hervaux. À Thouars, le chantier des pistes cyclables passe sur le grand plateau. Débuté en septembre dernier, l'énorme chantier des pistes cyclables de Thouars met les bouchées doubles. L'objectif est de relier le secteur du magasin But au cœur de ville, mais aussi de créer des tangentes le long du rail et surtout un barreau nord-est entre la route de Saumur et la route d'Argentenay via le lycée Jean Moulin. Au total, un linéaire de plus de 7 km qui donne actuellement un sacré chantier. Mais c'est pour la bonne cause, selon le maire président du Thouarsais, Bernard Pénaud, au micro-colline de Dominique Hérault.
C'est normal qu'un chantier de cette ampleur prenne du temps. Ça perturbe beaucoup la circulation, c'est vrai. Je veux juste rappeler qu'on n'est pas en train de refaire des enrobés ou des pistes cyclables. Bien sûr, ça contient les pistes cyclables, et heureusement. Mais on est en train de requalifier toute une avenue centrale de Thouars et qui connecte au cœur de la ville. Et requalifier, c'est la place du vélo, la place des piétons, la place des voitures, bien sûr, le stationnement, embellissement, c'est verdir, c'est rajouter des arbres. Les bordures sont pas des bordures en béton traditionnel, notamment plus on s'approche du cœur de ville. On est vraiment en train de travailler sur l'attractivité dans sa globalité et ça vient s'ajouter à ce qui a déjà été fait dans la rue Porte de Paris, autour du cinéma et ce qu'on fera demain sur la place Lavaux. L'idée, c'est vraiment d'apporter du dynamisme à la ville, d'apporter des touristes, des clients, des gens qui habitent, qui investissent, qui s'y sentent bien. Je pense que la ville avait un relatif retard, ou un retard certain dans ce domaine-là. Il y a tout à faire partout et tout ne peut pas se faire du jour au lendemain. On essaie de maîtriser le rythme et les budgets, bien entendu, mais on est en bonne voie pour réussir à rattraper progressivement ce retard. On ne rattrape pas 20 ans en 3 ans, mais on fait tout ce qu'il faut pour que la ville reprenne sa place et son rang.
Pour rattraper le peloton, ou plutôt faire partie des échappés dans la course à l'attractivité et à la qualité de vie, Thouars passe sur le grand plateau. En attendant, certains commerçants sont impactés par des semaines de déviation et de la périlleuse accessibilité pour la clientèle. Ils en appellent à des indemnisations. Bernard Pénaud.
Chemin faisant, on a pris la décision de mettre en place une commission d'indemnisation, comme on l'avait fait pour la rue Porte de Paris, pour indemniser les commerçants qui perdent du chiffre d'affaires et donc de la marge. Et on est en train de la mettre en place, on l'a annoncé, on l'a budgété. Et on va le faire dans les mois qui viennent pour que les gens puissent indemniser assez tôt.
D'ici un mois et demi, les Thouarsais devraient y voir plus clair, car certaines sections seront livrées au vélo, comme les boulevards du 8 mai, de la Libération et du Général de Gaulle. Bernard Pénaud et son équipe engage le sprint pour boucler ce premier tour. Un autre les attendra dès cet été, le grand chantier de rénovation des places Lavaux et Flandre-Dunkerque. Une sorte de Paris-Roubaix municipal. Reportage à Thouars, signé Dominique Hérault. À Cholet, Mode Avenir, c'est aujourd'hui. Le campus des métiers et des qualifications industrie créative de la mode et du luxe organise la seconde édition de Mode Avenir à Cholet ce jeudi. Le salon régional des métiers et des formations de la mode. Confection, maroquinerie, chaussures, bijouterie, c'est jusqu'à 17h ce soir à la salle des fêtes de Cholet. Cette journée ouverte à tous est l'occasion pour les collégiens, lycéens, étudiants, professionnels de l'orientation, mais aussi salariés en quête de reconversion professionnelle ou demandeurs d'emploi, de découvrir la richesse et la diversité des formations et des métiers de la mode, avec plus de 1000 postes à pourvoir en Pays de la Loire actuellement. Une exposition sur l'artisanat d'antan à Saint-Amand ce week-end. Ce sera dans la salle Libellule et elle devrait plaire puisqu'elle va raviver sans doute pas mal de souvenirs. Evelyne Aubourg est bénévole dans le collectif des Amis du Patrimoine.
L'artisanat et les commerces des années 50-60 à Saint-Amand-sur-Sèvre, puisque sur cette période, il y avait bien évidemment énormément comme commerce, aujourd'hui disparu, avec des métiers que les enfants ne connaissent même pas. Et le but, c'est aussi de faire participer les enfants justement à cette exposition pour découvrir ce que leurs grands-parents ou arrière-grands-parents faisaient de leurs 10 doigts.
Vous-même, vous avez eu des surprises en préparant, en se disant, bah oui, c'est vrai, ça existait. On l'avait même déjà oublié.
Complètement, oui. Et puis surtout des surprises sur, par exemple, une petite commune comme Saint-Amand qui a aujourd'hui 1400 habitants, qui avait un chapelier, par exemple. Des métiers qui réapparaissent aujourd'hui, mais à aucun moment on n'avait pu s'imaginer qu'il puisse y avoir ce métier dans une petite commune comme celle-là.
Une expo sur l'artisanat d'antan à Saint-Amand, les 23 et 24 mars, de 9h30 à 18h, avec l'entrée gratuite. On passe au sport, l'éclairage du stade René Gaillard n'étant toujours pas opérationnel, les Chamois Niortais affronteront Orléans lundi 1er avril à 16h30 en match décalé de la 27e journée nationale. En cyclisme, le Decévrien d'origine Thomas Gachignard disputait hier sa première course en World Tour, la classique flandrienne Bruges-la-Panne. Et Thomas a montré le maillot, celui de Total Energy, en étant dans l'échappée, le trio de tête qui a résisté jusqu'à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Le Pompinois a même prolongé en solo jusqu'à 10 kilomètres de l'arrivée avant d'être repris par le peloton. Et c'est Philipsen qui s'est imposé au sprint.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Cet après-midi, le ciel se dégagera avec globalement de belles éclaircies et quelques nuages sans conséquence sur les Deux-Sèvres et des températures de printemps, 20 degrés aujourd'hui. Demain vendredi, ce sera la plus belle journée de la semaine avec un plein soleil et près d'une vingtaine de degrés. Avant la chute vertigineuse des températures prévues pour samedi, pas plus de 10 degrés et des rafales d'ouest à 45 km/h. On aura aussi quelques pluies éparses au milieu des éclaircies ce week-end. Voilà pour l'info, tout de suite c'est le retour de la musique avec David. Bon appétit avec Colline.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
Voilà pour toute l'info de ce jeudi 21 mars à la mi-journée sur Colline. L'info prête.